vue d'ensemble de l'actualité.
C'est très important qu'il n'y ait pas de rassemblement physique. Donc, c'est pas le temps de préparer des parties de famille en fin de semaine prochaine. Là. Vous pouvez le faire par vidéo, par téléphone, mais pas physiquement. Là. C'est important cette année.
C'est pas le temps à part de faire un jambon aux ananas puis d'inviter sa belle-sœur, son beau-frère, même si on pense qu'ils sont fiables. C'est pas le temps de faire ces éléments-là.
Réville PM.
Horacio Arruda et le premier ministre François Legault. Je trouve bon son shampoo, ça n'a pas, moi. C'est une belle image. Alors, bienvenue dans cette troisième heure. Bienvenue aux gens de la Mauricie et du Centre du Québec qui nous écoutent sur le 106.9. On va retourner à Luc tout à l'heure. Je vais vous poser, je vous le dis, là, commencez à y penser. Là. Je vais vous poser la question. Vous, là, faites-vous partie de ceux qui souhaitaient connaître les scénarios qui vont être rendus publics après-midi? Avez-vous hâte de savoir, là, mettons, ce qui nous attend, là, les deux, trois scénarios, le scénario optimiste, le scénario pessimiste, le scénario moyen? Ou est-ce que vous êtes de ceux là, qui avaient le goût de dire « achalez-moi pas avec ça ». Je vais vous la poser, la question. Poser la question aussi, là, la transmission du coronavirus, dis-je, de nous à notre animal domestique, notre chat, notre chien, ça se peut-tu, ça? Et une proposition aussi pour mettre au pas les commerçants qui abusent, là, qui nous demandent une pièce par rouleau de papier de toilette, là. Une proposition de Québec solidaire que vous allez entendre dans cette troisième heure. Mais d'abord, on s'en va rejoindre la directrice de la Santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin. Bonjour, docteur Drouin.
Oui, bonjour, M. Darinville.
Là, évidemment, il y a plusieurs choses là que j'ai le goût de vous, plusieurs questions que j'ai le goût de vous poser. D'abord, l'idée d'isoler, on l'a vu encore là, les gens de Terrebonne, là, la mairie puis la santé publique de Lanaudière qui ont décidé d'isoler les centres d'achat de Terrebonne là, pour pas que les gens d'ailleurs viennent magasiner dans Walmart puis de Costco. Bon, l'idée d'isoler certains quartiers de Montréal qui sont particulièrement touchés par l'infection, est-ce que c'est encore une idée possible ou vous avez mis ça de côté pour de bon?
Nous, ça fait quand même plus qu'une semaine que je dis que c'est pas dans nos scénarios actuels. Montréal est en transmission communautaire sur l'ensemble de l'île de Montréal. C'est sûr qu'il y a peut-être quelques petites zones où il y en a moins, puis il y a des points chauds. Mais les mesures qu'on a mises en place pour la distanciation sociale doivent s'appliquer à tous les Montréalais. Ce qu'on voit en termes de circulation interurbaine, et ça, c'est la recommandation du gouvernement, c'est de limiter cette circulation-là d'une zone où il y a une plus grande transmission communautaire vers une zone où c'est plus bas. Donc, Terrebonne, par rapport à Montréal, oui, en effet, c'est moins, il y a moins de transmission. Évidemment, c'est une des recommandations pour éviter de contaminer ou d'amener plus de transmission dans une région qui en aurait moins actuellement.
Mais vous dites que sur l'île de Montréal, c'est tellement maintenant, le virus s'est tellement propagé qu'on peut plus vraiment dire qu'il y a un secteur de l'île là, qu'il faudrait comme isoler du reste de l'île. C'est bien ça?
Bien, on a amené des recommandations à la population, donc de se dire restez dans vos quartiers, essayez de consommer dans vos quartiers. Il y a eu une fermeture, par exemple, des stationnements sur le Mont-Royal pour éviter que tout le monde aille sur le Mont-Royal durant la fin de semaine puis que ça devienne un lieu plus achalandé. Donc, c'est sûr que la recommandation reste de limiter ces déplacements à ce qui est essentiel et de rester le plus près possible le plus souvent possible dans son quartier. Mais de là à demander un confinement, à mettre des barricades, nous, on ne croit pas que ce serait des mesures qui amèneraient des gains sanitaires si importants pour tout ce que ça demande à la population de ces quartiers-là, aux commerçants, etc.
OK. Par rapport à la fête de Pâques qui s'en vient, là.
Oui.
Fête la Pâque juive mercredi, la Pâque chrétienne quelques jours plus tard. Est-ce que vous avez pris des mesures pour, je sais pas moi, vous mettre en lien avec les leaders religieux des différentes communautés pour qu'il y ait un effort supplémentaire qui soit fait pour éviter tout attroupement, tout rassemblement?
Oui, avec certaines communautés, c'est déjà fait depuis plusieurs semaines où on a des rencontres quasi hebdomadaires là, pour regarder des éléments là, de leur célébration, mais ça s'applique à toutes les communautés. Donc pour nous, pour nous, ça, tout le monde doit respecter la consigne de non-rassemblement, peu importe la confession religieuse. Puis c'est sûr que dans la prochaine sortie médiatique avec la mairesse, c'est quelque chose qu'on va mettre beaucoup de l'avant, là, de bien s'assurer que durant les célébrations qu'on trouve des alternatives au rassemblement. Mais oui, il y a déjà eu des pourparlers avec certaines communautés plus spécifiques.
C'est quand votre prochaine sortie?
Probablement demain.
OK. Puis quand vous dites...
les modèles du provincial pour être capable de parler par la suite de Montréal.
Ah ben oui. On va en parler de ça dans un instant. Mais quand vous dites qu'il y a déjà eu des communications, il y a déjà eu des approches qui ont été faites, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Ben, il y a beaucoup d'approches qui ont été faites depuis le début mars, là, avec certains rabbins, par exemple, pour tout ce qui touche la communauté juive, parce qu'on se le cachera pas qu'il y avait certains quartiers qui étaient plus touchés au départ, qui touchaient certaines de ces communautés-là, puis pour lesquelles il y avait eu des célébrations et tout ça, que ce soit des mariages ou d'autres types de célébrations. Donc, on a depuis quand même plusieurs semaines, on est en dialogue, puis on a quand même un très bon appui de la communauté. Les outils ont été traduits pour s'assurer que ça pénètre, que les messages pénètrent bien dans la communauté. Donc ça, c'est ce genre d'événement-là. On est allé aussi dans d'autres églises à Montréal-Nord au mois de mars dernier pour bien expliquer pourquoi l'importance des rassemblements. On essaie toujours d'être proactif et le moins répressif possible. Mais je pense que globalement, les consignes sont quand même très bien comprises. Bon, il reste toujours des réfractaires ou des exceptions, mais je pense que globalement, on peut être content de l'application des mesures par la majorité des communautés.
Bon, là, on va en parler, là. Les courbes, les projections vont être rendues publiques dans à peu près une heure, un petit peu plus d'une heure. Comment ça se présente par rapport à Montréal? Est-ce que vous sentez que le sommet, on s'approche du sommet, on s'approche du pic?
Mais c'est sûr que je vais laisser le provincial présenter en premier ses modèles. Ce qu'on peut dire pour Montréal, c'est que probablement qu'on est une semaine à l'avance sur le reste du Québec facilement. Clairement, dans les modèles qui sont là, oui, on va avoir plus que 50% probablement des cas parce que l'éclosion et le foyer endémique est vraiment à Montréal en termes de nombre, mais en termes de temporalité, faut s'attendre à ce qui va nous être présenté après-midi. Ben nous, on est toujours un petit peu en avance, comme le printemps arrive un petit peu plus tôt à Montréal. le pic épidémique aussi risque d'arriver un petit peu plus tôt à Montréal cette année.
Et donc, la question que je vous posais, c'est sentez-vous qu'on s'en rapproche du pic?
Je crois que oui, mais je vais attendre de vous présenter ça demain.
OK. Mais on sent dans votre sourire et dans votre attitude qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'on pourrait être proche du sommet, hein?
On a des indicateurs plus encourageants, comme le premier ministre le dit, autour des hospitalisations, et ça s'applique aussi à Montréal. Là où nous, on est un petit peu plus inquiets, c'est toute notre approche dans les milieux de soins pour personnes âgées. Et ça va devoir être mis en place et renforcé pour beaucoup plus longtemps, parce que même si aujourd'hui, on réussit collectivement à aplatir la courbe, puis tranquillement, dans la prochaine phase, ça va être de commencer à s'immuniser là, comme population, parce qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir plein de pics comme ça à tous les mois. À ce moment-là, il va falloir quand même toujours maintenir des mesures très fortes pour protéger nos plus vulnérables. Et ça, je pense, c'est le prochain défi, le défi auquel on est déjà affairé, mais qu'il va falloir qu'on continue pour encore une bonne période.
Une bonne période, ça veut dire quoi?
Pour protéger les plus vulnérables, dont les personnes âgées, c'est facilement plusieurs mois. Là,
donc, ce que vous nous dites, c'est que même si on a atteint le sommet, mettons, on jase, là, d'ici la fin du mois d'avril, et qu'on commence tranquillement, pas vite, à assouplir les contrôles, il va falloir que, par exemple, les accès aux CHSLD, aux résidences pour aînés, restent strictement contrôlés, par exemple.
Ça pourrait être un exemple, mais oui, les gens immunocompromis, les gens avec des maladies chroniques, par exemple pulmonaires sévères, ou des gens très âgés qui sont beaucoup plus vulnérables, tant qu'on n'arrive pas à une immunité collective ou à un vaccin qui s'introduit, là, mais on sait que ce ne sera pas à court terme, il va falloir toujours être très vigilant pour les protéger. Puis c'est ce qu'a fait même certains pays pour lesquels ils ont mis moins de mesures, je dirais, populationnelles de confinement. Ils ont beaucoup misé sur la protection des gens les plus vulnérables, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de, un, éviter le plus de décès, mais aussi s'assurer que la capacité de notre réseau de santé est toujours au rendez-vous.
Parlant des résidences pour aînés au sens très large, là, incluant les CHSLD, bien entendu, là, on a entendu la ministre McCann pendant le point de presse dire il faut transférer du personnel de santé des hôpitaux vers les CHSLD, vers les résidences pour aînés. Est-ce que vous avez commencé à le faire sur l'île de Montréal?
J'ai pas cette réponse-là. Faudrait que je voie avec les gens de l'organisation de services, mais je sais que c'est dans les scénarios, mais j'ai pas la réponse si c'est démarré ou c'est entamé là, dans certains des établissements. Faudrait que j'aille vérifier.
Mais c'est une orientation dont vous aviez entendu parler, là.
Ça peut être dans les scénarios parce que l'objectif, c'est que nos ressources soient là pour répondre là où il y a des besoins plus criants. Si on voit qu'en termes de courbe épidémique, finalement, ce qu'on s'attendait en termes d'hospitalisation et de soins intensifs est moins demandant, bien, je pense qu'on va devoir renforcer nos équipes, entre autres en prévention, contrôle des infections, puis des équipes de soins dédiées dans les milieux où on a les populations les plus vulnérables pour les protéger.
OK. Sur les itinérants, oui. Comment ça se passe? Hier, je vais vous raconter quelque chose, Dr. Drouin. OK, c'est un beau moment. Je suis allé prendre ma marche après mon émission. J'étais dans le Vieux-Port. Et là, j'ai vu une policière et un policier s'arrêter auprès de deux sans-abri. Et j'ai vu la policière sortir de la voiture. Et là, j'ai trouvé ça émouvant, là, puis je vais essayer de rester cool, là. Mais je l'ai vu ouvrir son coffre d'auto, sortir deux sacs et aller les porter aux deux itinérants. Et après coup, elle a rembarqué, je l'ai vu jaser, tu sais, j'ai observé ça de loin, puis après coup, la voiture s'est avancée, puis je les ai arrêtés, puis je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous... Elle a dit, écoutez, il y avait des plaintes, et là, plutôt que de leur dire, tassez-vous de là, tu sais, allez-vous-en ailleurs, elle dit, on leur a proposé un marché, on leur a dit, écoute, il y a des plaintes, vous n'êtes pas au bon endroit, vous, tu sais, avez-vous mangé? Non? Regarde, je vais aller te chercher quelque chose à manger. Puis après ça, si t'es d'accord, tu pourras manger. Puis après ça, tu pourras te déplacer à un autre endroit pour mettre fin aux plaintes. Je dois vous dire, Dr. Drouin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, ça, c'est des deux policiers, un policier puis une policière, qui sortent de leur rôle strictement conventionnel, on va dire, là, puis qui s'adaptent à la situation actuelle. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Puis je l'ai dit à la policière, d'ailleurs. Et je me suis dit... C'est vraiment, tu sais, il y a des belles choses qui se passent dans cette ville par rapport aux sans-abri actuellement. Là.
Exactement, puis je salue ce geste-là, puis on est vraiment, on travaille beaucoup avec les policiers communautaires dans cette approche-là. C'est sûr que le gouvernement donne des pouvoirs pour mettre des amendes, mais le plus possible, surtout avec les clientèles vulnérables, comme l'itinérance, on a tout avantage à se mettre dans une position plus proactive en amont à essayer... De toute manière, ça sert à rien de mettre des contraventions, de soit mettre des services en place, comme dans certains parcs, on a mis des centres de jour où ils peuvent aller chercher de la nourriture. On va mettre des équipes mobiles de dépistage pour être capable de, s'ils ont des symptômes, puis surtout éviter que s'ils vont en refuge le soir. Donc, on a tous ces corridors de services-là pour protéger la communauté, mais aussi s'assurer de garder ce côté humain, parce que vivre dans l'itinérance ces jours-ci, c'est extrêmement difficile pour les gens qui sont dans la rue.
Avant de vous laisser, il y a un scénario qui a été évoqué dans les médias aujourd'hui, des tests aléatoires dans la population en général. Donc, débusquer le virus, là, ne pas tester seulement certaines clientèles ciblées, par exemple, le personnel de la santé, puis on s'entend que le personnel de la santé, il faut continuer à le tester d'une manière prioritaire, là. C'est nos anges gardiens, on le dira jamais assez. Mais de passer à une autre étape, de tester de manière aléatoire pour justement pas attendre le virus, mais partir après, être offensif. Est-ce que ça se peut, ça, qu'on en arrive là sur l'île de Montréal?
Si on a la capacité, bien, comme je disais, à court terme, on est vraiment dans des offensives, je dirais, on essaie de dépister dans les milieux où on risque d'avoir des éclosions, puis là où on peut intervenir très rapidement. Puis c'est autant dans les milieux de soins que, par exemple, dans un refuge ou mettons qu'on aurait une tour d'habitation où on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, ou une maison de chambre. Donc, des endroits où on peut être en mode intervention et contrôler une éclosion. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on va avoir passé le pic épidémique, puis là qu'on va vouloir, le virus va de toute manière devoir s'introduire dans la population pour qu'on se crée une immunité, la seule stratégie qu'on va avoir pour éviter que ça flambe, ça va être d'être capable d'introduire le virus dans la communauté, mais d'avoir une plus grande capacité de test et donc de faire ces tests, je dirais pas aléatoire, mais rapidement d'aller chercher les gens qui développent des symptômes. Et on est en train aussi d'essayer de mettre tout un volet d'études sérologiques pour être capable aussi d'identifier l'immunité qui se développe dans notre communauté. En Italie, ils réfléchissent même à ce qu'ils appellent les passeports COVID, où on commence à regarder des gens pour lesquels on sait qu'ils ont eu le COVID puis qu'ils sont immunisés. Puis à ce moment-là, la réintégration au travail est plus facile.
OK, ça, on y pense, ça. On pourrait le faire, Dr. Drouin?
Mais on est en train d'étudier différents scénarios. C'est sûr que toute cette science-là se développe au fur et à mesure que les pays européens vivent et sont dans des phases de rétablissement.
Non, mais les passeports pour les personnes qui l'ont eu, dont on sait qu'elles sont guéries.
Je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, mais c'est l'expérience italienne, c'est vraiment des études sérologiques qui nous permettent de déterminer la proportion de la population qui a développé une immunité. Mais eux vont même plus loin en Italie à réfléchir à ce que dans des secteurs d'emploi qu'on veut réouvrir, si on a une proportion de la population qui a déjà été immunisée, à ce moment-là, c'est plus facile de réouvrir certains secteurs d'activité, par exemple. Donc, on est tout en train de regarder ces différents scénarios.
J'essaie de comprendre, là, puis je ne dois pas être le seul. Mettons qu'on veut rouvrir le secteur de la construction. Donnez-moi un exemple concret là, pour que je comprenne bien ce que vous voulez dire. Des tests auprès d'une population.
Actuellement, on regarde des milieux. On va regarder, admettons qu'on va réouvrir certains secteurs d'activité. Mais là, il faut voir qu'est-ce qu'on met comme mesure de protection dans le secteur, puis comme mesure de distanciation pour éviter qu'il y ait des grandes éclosions. Mais on pourrait aussi réfléchir dans certains secteurs si on a une proportion suffisante de la des travailleurs de ce secteur-là qui ont déjà fait la maladie. À ce moment-là, c'est beaucoup plus, on peut plus facilement, rapidement réouvrir ce milieu-là et mettre des conditions en place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éclosion à l'intérieur du milieu et de maintenir les activités. Mais tout ça, comme je vous dis, est en développement actuellement et en réflexion, mais ça fait partie déjà des scénarios qu'on commence à regarder.
Mais vous
ne
voulez pas me donner un secteur? Vous voulez pas pour qu'on visualise un exemple?
On n'a pas, oui, le secteur de la construction, ça pourrait être n'importe quel secteur, là, ça pourrait être le secteur des garderies, ça pourrait être, il n'y a pas de secteur en particulier auquel ça s'appliquerait plus spécifiquement. Là.
Dr. Mylène Drouin, qui est pas mal occupée ces temps-ci, directrice de la santé publique de Montréal, qui a pris un moment pour nous parler. C'est très apprécié. Lâchez pas, Dr. Drouin, c'est pas évident, mais vous êtes très importante dans la situation actuelle. Alors, on apprécie le travail que vous faites.
Merci beaucoup. Merci à mes équipes aussi. Au revoir.
Oui, absolument. C'est un travail d'équipe. Après la pause, je vais vous demander, voulez-vous les connaître, les scénarios, oui ou non? 790-9850, 98985 par texto. Drainville, à commercial, 985fm.ca. Les courbes, les projections, positives, négatives, le scénario entre les deux, oui ou non? Dans un instant.